You're listening to the fucking Radio Giro.
Girol Radio Station. Et bonsoir et bienvenue en direct du centre d'animation Saint-Pierre où, comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, on est en direct et on va parler de logiciels libres, de culture libre et de trucs autour de Linux comme d'habitude. Comme d'hab, on a un programme fait un peu à la dernière minute, mais on a des choses vraiment très très intéressantes à raconter, comme à chaque fois en plus. Voilà. Autour de la table, Isa. Bonsoir, Isa.
Bonsoir.
Simage. Bonsoir, Simage.
Bonsoir.
Alors, Mathias, j'oublie toujours ton blaze.
Wilfier.
Ouais, bonsoir. Wilfier. Je vais m'en rappeler, promis. Et Titoine. Bonsoir, Titoine.
Bonsoir.
Voilà, Titoine qui est là ce soir pour dire des conneries.
En fait, peut-être.
Ou peut-être pas.
Et en plus, je ne vais pas rester jusqu'au bout de l'émission puisque je prépare la réservation de restauration qui pour... suit la radio.
Voilà. Et comme les places sont chères, tu vas y aller en éclaireur.
Ouais, c'est un peu capital. Hein. Franchement, si tu faillis à ta tâche, on va te tuer.
Ou on va te bouffer, c'est au choix.
C'est ça. En attendant d'aller bouffer ou de bouffer Antoine en hamburger...
Des brochettes d'Antoine.
Ouais, ou des brochettes d'Antoine. Du confit d'Antoine.
Du foie gras.
On va parler du programme.
Rien.
Oh les salauds, oh les salauds. En fait, c'est pas toi qui dis conneries, en fait. C'est tout le monde qui va dire des conneries sur toi. C'est pas très sympathique. On va parler, comme d'habitude, de l'agenda. Ça y est, c'est une tradition. On en parlera à chaque fois. Enfin, on va essayer parce que peut-être des fois, on n'aura pas des choses, on n'aura rien à annoncer. Mais en général, le libre se porte plutôt bien en région bordelaise. Donc, voilà. Ceci étant dit, si jamais vous avez des événements en Nouvelle-Aquitaine ou même en France ou dans le monde, parlez-nous-en. On en parlera sur notre petite radio. Ça fera toujours plaisir, en plus. On va parler donc de notre agenda, il y a pas mal de choses à dire. Ensuite, on parlera du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique qui se penche sur les licences libres, entendez Creative Commons, bien entendu. On parlera de Purisme, une initiative relativement intéressante pour tous les amoureux de la liberté et des ordinateurs portables. On parlera de jeux vidéo et côté musique, on aura de la New Wave, du hip-hop, de la chanson française, voilà, plein de surucs super sympas. Alors, ben on va commencer par l'agenda, et c'est toi qui vas t'y coller, Simage, parce que l'agenda, c'est ta partie, il n'y a pas FX.
Oui, oui. Puis de toute façon, il ne fait pas l'agenda. Il fait des trucs vachement plus intéressants.
C'est
il parle de neutralité du net,
choses
compétentes.
Il faisait le jingle de l'agenda, c'était génial.
Ah putain, c'était bien, c'est vrai. Pardon, excusez-moi, j'ai encore juré.
Voilà.
Donc,
mais on s'en fout, attends.
Merci comme tu veux. Oui, mais bon, c'était pas le plus beau. Oh. J'ai appris à dire sac à merde maintenant.
Ah.
Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure.
Ah, c'est important. Ouais.
Finalement, j'ai pas besoin d'être là pour dire des conneries.
Non. On t'avait prévenu.
Pardon. Bon, je reviens plus. Je suis incapable de me tenir. Donc, alors, le programme, on a en mars, on a un événement à Bulle. Donc, le samedi 18 mars de 10h à 13h à la médiathèque de Mérignac. La thématique, ça sera vidéo avec des logiciels libres. Donc ça, c'est la bulle. On peut retrouver le programme exact. Tu veux des détails parce qu'ils n'en mettent pas des masses. Il n'y a pas mieux sur leur site.
Donc sur leur site.
Voilà. Donc à bulle.org.
Voilà.
Pour mars, toujours, on a Léa Cafocon qui, dans 2 jours, font leur soirée Linux. Donc jeudi soir à 19h. Au Petit Grain, c'est Place d'Ormois.
Alors, il faut rappeler que le Petit Grain est un café associatif alternatif où on peut boire et manger de super bons trucs bio, notamment, ou végétariens, et des produits locaux.
Ouais.
Et tout ça, en plus, en découvrant Linux.
Et elle est où, la Place d'Ormois ?
La Place d'Ormois.
À côté de Barbé, la place où il y a Barbé, en plein centre de Bordeaux.
De la Rock School.
Oui, ouais. Pardon, j'ai dit Barbé, oui, de la Rock School, Barbé, oui.
Oui.
Voilà. La plupart du temps, on connaît la Rock School, Barbé, la Place d'Ormois est là.
Voilà, pour ceux qui sont à Bordeaux et qui connaissent un petit peu, vous partez de la Victoire pour aller vers la gare Saint-Jean, et c'est le dernier grand cours qu'il y aura sur votre gauche, droite, l'autre
droite,
gauche.
Droite, l'autre gauche. Voilà. C'est pas très loin de la gare.
C'est ça.
Ensuite, Akilnet, c'est le 27 mars, donc la soirée Nothing to Hide à l'Utopia. Donc, diffusion d'un film et débat derrière. Du coup, tu y vas ou tu y vas pas?
Je vais essayer d'y aller. Normalement, on va essayer de faire un petit reportage Girol là-dessus.
Ah, donc, sympa.
C'est pareil, je mettrai le lien sur le site, sur l'archive de la radio. Donc, c'est organisé par l'association Akilnet et la Ligue des droits de l'homme Gironde. Donc, et en intervenant, on a François Pellegrini, professeur d'informatique de l'Université de Bordeaux, Pierre Granger-Padéras, artiste hacker d'OpenBillab.org, entre autres, Jean-Claude Guichenet, président de la LDH Gironde, donc la Ligue des droits de l'homme, et des membres d'Aquilnet, le fournisseur d'accès Internet associatif Aquitaine.
Tout à fait.
De nouvelle Aquitaine maintenant. Ouais. Je ne m'y habitue pas encore. Alors, il faut acheter ses places à partir du vendredi 17 mars. Donc, voilà. À partir de vendredi qui arrive, vous pouvez aller sauter place à l'Utopia sur le vendeur de places et faire « Oui, je veux une place pour nos Synthwide. » Voilà. Et donc, il y aura peut-être Girol grâce à Yurik.
On va essayer.
Nous, on est invité en tout cas. On est invité à intervenir aussi. Voilà. Ensuite, j'ai dit quoi ? J'en suis où ? L'ABX. Alors voilà, on arrive en avril. Donc sans doute le 1er avril, il devrait y avoir une chiffre faite au L'ABX, comme la dernière fois donc, à la Fabrique Pola, rue Fieffé, dans la cuisine de la Fabrique Pola. A priori, ça devrait avoir lieu. On n'a pas encore fait la com, tout ça, mais... voilà.
C'est le 1er avril, on a encore un peu de marge.
Oui, c'est ça, on peut vous faire une blague aussi. Mais bon, c'est plutôt en bonne voie. De toute façon, on annoncera aussi sur les réseaux sociaux, l'agenda du libre, etc. Donc ça, c'est difficile de le rater. Et toujours en avril, je l'annonce maintenant parce que ça sera avant la radio prochaine, donc c'est à nouveau la bulle. Le samedi 8 avril de 10h à 13h, à la médiathèque Jacques Ellul, ce coup-ci, donc à Pessac. La thématique, donc c'est leur conférence qu'ils appellent à libre ouvert. Donc, conférence et atelier, Raspberry. Raspberry.
Pareil.
Bah, j'aurais envie de dire oui, mais il n'y a écrit que Raspberry. Donc, je lis ce qu'il y a écrit.
C'est le mystère d'avril.
Voilà. Et voilà. Et si vous voulez plus d'informations, contactez la bulle, parce que c'est pas plus, il n'y a pas beaucoup plus d'infos. Voilà.
Labulle.org.
Toujours sur le site de la bulle. Je crois que j'ai fait le tour.
Alors, tu as fait le tour de l'agenda, mais il y a aussi des choses qui se sont passées, notamment un atelier qui s'est passé en partenariat, enfin, même organisé par la Bulle
et Girol,
En la présence de Samuel Thibault, qui a organisé du coup un atelier sur j'ai un bug, qu'est-ce que je fais ?
Qu'est-ce que je peux faire ?
Qu'est-ce que je peux
qu'est-ce
faire ?
Qu'est-ce que je peux faire ? Donc, oui, c'était la semaine dernière chez Girol, c'était bien. On était quelques-uns à suivre le cours. Et on avait des gens qui nous regardaient en direct à la télé. Alors, pas vraiment à la télé, mais ouais, c'était retransmis en direct. C'était drôle, ça a été un peu compliqué pour réussir à lancer la retransmission. Quelques problèmes de fond.
Alors, de toute façon, on va essayer de travailler pour pouvoir proposer ce genre de format un peu plus facilement à l'avenir.
Oui, avoir les bons outils, avoir prévu l'ordinateur peut-être qui accepte un casque. Et un micro.
Exactement.
Et pas comme, un micro-casque.
Voilà. Comme par exemple celui qui nous sert de studio radio où il y a déjà tout installé. Mais ça, c'est une autre... voilà.
Oui. Et bon, voilà. On devrait pouvoir retransmettre la vidéo, faire la mettre quelque part sur le site. On est en train d'y réfléchir. Où la mettre, comment la diffuser, tout ça. Voilà. Sinon, c'était bien. Donc, c'était en condensé. Je sais pas, Mathias, tu as peut-être envie d'expliquer plus. Toi, tu étais là aussi.
Ouais, cool. C'était principalement expliquer qu'est-ce que c'était un bug. Toute l'approche de la présentation était quand même essayer d'être orienté grand public et sans particulièrement de prérequis techniques ou de connaissances en informatique.
Simple utilisateur en fait.
Exactement, voilà. Donc ça a commencé par qu'est-ce que c'est qu'un bug, essayer de démystifier le truc. Certaines personnes nous ont fait comme retour sur cette partie justement qu'ils pensaient que c'était un peu, enfin ils avaient un peu l'impression que c'était une fatalité, qu'on pouvait rien faire justement. Donc c'était même cette première approche était assez intéressante et importante à avoir. Et après ça a été sur de quoi vont avoir besoin les développeurs pour pouvoir corriger le problème, quels sont les réflexes à avoir, quelles sont les bonnes idées où aller creuser. Moi, je trouvais ça très intéressant, plutôt bien fait. Et étant développeur, j'ai vu pas mal de vécu dans les « ne faites pas ça » ou « faites ça ». Ça, c'est capital pour nous, ce genre de choses.
En fait, oui, ce qui était sympa, c'était vraiment ça. C'était le côté... alors, si vous avez un bug, vous pouvez essayer de le résoudre pour vous, mais vous pouvez aussi essayer de le résoudre pour la communauté. Enfin, pas vous de le résoudre, mais aider le mainteneur ou le développeur à résoudre ce bug. Et donc, il y avait vachement de déculpabilisation, enfin, un côté un peu « vous inquiétez pas, il faut y aller, il faut oser, il faut aller discuter avec le dev », avec des petits conseils pour que le dev n'ait pas envie de vous dire non, voilà, ou d'être plus ou moins aimable. Mais parce que C'est toujours un peu compliqué de recevoir des bugs, j'imagine, de la part d'un développeur, parce qu'on a un peu l'impression d'avoir des retours un peu, comment dire, un peu bruts, du genre, ça va pas, t'as pas bien fait, c'est pas gentil. Bon, voilà. Ça peut être un peu agressif, en fait, le retour de bugs. Pour le développeur et pour le gars qui fait le retour de bugs, en fait. Mais bon. Donc, là, c'était surtout explication. Qu'est-ce que c'est qu'un bug? Est-ce que vous avez le droit de faire des retours de bugs ou pas? Tout ça.
Il est d'ailleurs prévu de faire la version 2 avec un cas pratique, l'étude d'un cas pratique. C'est une idée qui a émergé à la fin de l'atelier.
Oui, oui, Samuel a l'air très motivé pour continuer. Et l'idée, ça serait de faire, en fait, de le faire en groupe. Alors, partir d'un bug déjà connu, déjà résolu, voilà. Mais nous faire faire le cheminement, en fait.
Comment déterminer qu'il y a un bug, quelles sont les actions à faire, quelles sont les informations à collecter, peut-être des cas, essayer avec une ancienne version du logiciel, le bug il a disparu, ça c'est une info importante, ou essayer de redémarrer, enfin plein de petites actions qu'on peut faire. Et du coup l'idée là c'était vachement plus d'essayer de creuser sur qu'est-ce qu'en tant qu'utilisateur vous pouvez faire pour pouvoir faire un rapport de bug le plus complet possible et le plus utile possible aux développeurs.
Ouais.
Donc on verra. Bon, on a fini pour l'agenda. Je vous propose une petite pause musicale. On va s'écouter Accident, troisième balade mondiale, de l'album Vert Bleu Noir. C'est en Creative Commons by NCND. C'est plutôt un style New Wave. On se retrouve juste après sur Radio Girol.
You're listening to the fucking Radio Girol.
Girol Radio Station.
Balade. Nous passons juste de terre.
plutôt bon ce morceau, je trouve, plutôt sympathique. C'était Accident sur Radio Girol et on va aborder le deuxième sujet de la soirée, un truc qu'on aime bien chez Girol, les licences. Et notamment le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique qui se penche un petit peu sur les licences libres. C'est Next Impact qui a lancé le truc.
Alors le sujet effectivement était déjà dans Next Impact. Moi je l'ai appris par Musique Libre, en fait par l'association, puisque le président de l'association a demandé, fait un appel à témoignage puisqu'il va être entendu pendant une heure par la personne chargée d'une mission que lui a confiée donc le CSPLA, donc le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique. On va l'appeler CSPLA, c'est plus facile. C'est moins long, c'est déjà suffisamment compliqué ce genre de sujet. Donc voilà. Donc de quoi est-il question ? En fait, le CSPLA avait déjà demandé une étude en 2007 à une certaine Joëlle Farchi. Et donc, il lui recommande une étude, puisque ça date un petit peu. Il trouve que, donc, comme c'est un petit peu obsolète, il voudrait avoir une actualisation. Parce qu'il considère que c'est quelque chose de mouvant dans un marché immature. C'est eux qui parlent de marché. Et déjà, ça vous donne un petit peu le ton de la manière dont les choses sont vues du côté du ministère. Donc... dans cette mission, en fait, il se pose trois questions. Alors, ce n'est pas inintéressant hein, quand même à la base, ce questionnement de la part du CSPLA. Donc, les trois points qui font l'objet de la mission. Je vais vous les lire, ça sera bien clair. Alors, le premier point, c'est quelles sont les formes des licences libres existantes et leurs origines. C'est intéressant, après tout. Donc, la sous-question sur ce sujet, c'est comment et pourquoi les licences Creative Commons ont-elles acquis au fil des ans une position de quasi-monopole et comment se sont-elles adaptées aux spécificités juridiques nationales ? Quels acteurs promeuvent ces licences ? Avec quel soutien financier et organisationnel ? Voilà, donc c'est déjà une question en elle-même qui est très intéressante.
On peut peut-être présenter le budget prévisionnel de Girol qui en fait la promotion ?
Oui. C'est-à-dire zéro. Donc, c'est ça qui est très drôle, c'est-à-dire que, enfin, c'est drôle, entre guillemets, hein, ça incite un peu à rire jeune, c'est la manière dont ils abordent le sujet. C'est-à-dire qu'on se demande comment ils vont pouvoir mettre à disposition des moyens en capacité d'analyser vraiment la situation s'ils parlent déjà que d'aspect monétaire et de se mettre dans le principe d'un système existant et qui ne correspond pas aux licences libres. Bref, c'est une petite parenthèse sur le sujet. Mais... donc, la situation quand même de quasi-monopole de Creative Commons, c'est quand même vrai. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus le nier. Je pense que cette étude peut quand même être intéressante sur certains sujets. Et bon, après, il faut espérer qu'ils aillent chercher un peu plus loin que les études qu'ils ont faites précédemment et surtout les moyens qu'ils ont l'intention d'utiliser. Enfin, on verra bien. Ne perdons pas espoir. La deuxième question qui se pose, c'est qui sont les utilisateurs de licences libres ? Donc, créateurs et consommateurs d'œuvres culturelles sont les principaux utilisateurs de licences libres visées par la philosophie du partage. Leur motivation, les types d'œuvres concernées et les audiences réalisées devront être étudiées ainsi que les communautés constituées d'utilisateurs. Chose normale. Ensuite, le troisième point, c'est quel rôle jouent les acteurs de l'intermédiation dans l'évolution d'une économie du libre ? Voilà, donc déjà, hop, on repasse dans la partie économie du libre. Donc, bah écoute, c'est intéressant parce qu'en fait, moi, j'attends après qu'ils nous expliquent bah justement quels sont ces acteurs de l'économie du libre. Parce que là, effectivement, on se positionne dans un domaine qui est à la fois flou, et puis qui se confond aussi avec l'économie du pas libre. Hein, parce qu'en final... si on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les créateurs, qu'ils soient libres, qu'ils utilisent des licences libres ou pas, passent en gros par les mêmes outils. Bandcamp, par exemple, si tu veux vendre ou pas vendre, voilà, tu as le choix. Même Jamendo, je pense qu'aujourd'hui, chez Jamendo, tu vas avoir des gens qui font des licences libres, d'autres pas. Tout un tas de systèmes qui permettent une rémunération via YouTube, par exemple. Donc maintenant, avec tous ces systèmes-là, voilà, libre ou pas libre, on va trouver les mêmes personnes. Donc au final, qu'est-ce que ça change par rapport au libre ? Cette question, pour moi, cette question, Elle est un peu décalée, quoi. Elle est un peu décalée du sujet. Mais bon, il se la pose. Donc, il se pose des questions par rapport aussi aux structures d'intermédiation. Par exemple, il donne l'exemple de Wikimedia. Et il parle des sociétés de gestion collective. Donc ça, c'est intéressant parce que je pense qu'en fait, ils font référence à la SACEM et les autres sociétés européennes qui ont signé des accords avec Creative Commons. Parce que de toute façon, pour eux, il n'y a quasiment que Creative Commons qui domine le marché, entre guillemets, des licences libres. Donc forcément, ils vont penser uniquement à ça. Et ce qui sera intéressant, je pense, dans les infos qu'on pourra leur remonter, c'est qu'il existe une autre option en matière de gestion collective qui s'appelle le C3S et qui est une initiative allemande et qui est une gestion collective qui permet d'avoir de la musique, par exemple, en licence libre, qui soit gérée par cette société, mais qui répartit vraiment de manière totalement équitable ce qui va être perçu. Et complètement à l'inverse de la SACEM. C'est-à-dire que plus les gens vont toucher, plus ils vont être connus, plus ils vont toucher d'argent, plus ça va être plafonné et plus ça va être reversé à ceux qui en touchent le moins. Quoi. En gros, hein, je schématise. Après, il faut voir où en est le C3S, mais il y a quand même pas mal de choses qui évoluent, en tout cas de ce que je peux en voir de loin. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la personne qui a été interpellé pour faire cette mission, avait déjà fait une mission sur le même sujet en 2007. Et là, elle a quand même tiré une conclusion qui est, comment dire, un petit peu... qui m'inquiète un petit peu sur la suite qui va être donnée à cette mission-là. C'est-à-dire qu'à l'époque, elle avait donné un avis en disant que les licences libres remettaient en fait les utilisateurs dans une situation d'amateurisme, contrairement à la gestion collective, elle les sortait de la gestion collective pour les laisser dans une situation d'amateurisme, ce que je trouve complètement hallucinant comme conclusion. Mais bon, voilà. Donc voilà quel type d'analyse on risque d'avoir à faire. Encore une fois, sachant que le but derrière tout ça, c'est éventuellement de légiférer pour encadrer les usages. Voilà.
Encadrer les usages, c'est-à-dire c'est empêcher les gens d'utiliser des licences libres ?
Je ne sais pas. Ça, c'est le CSPLA qui va faire sa conclusion, malheureusement. Donc, on ne peut pas savoir à l'avance quelle conclusion il va tirer du résultat de cette mission. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, de toute façon, ça c'est sûr. Mais je vais essayer de retrouver la phrase qui parle de ça dans le courrier de la lettre de mission, qui m'inquiète moi un petit peu. J'essaie de retrouver ce magnifique paragraphe.
Pendant qu'elle cherche, voilà. Il y a Olinux sur IRC qui fait ça y est, je trouve pas mes mots comme d'habitude. Donc il dit, c'est peut-être pas de l'analyse tout court qu'ils font, mais de l'analyse de comment faire en sorte de rattraper un train qu'ils ont loupé et s'en servir pour faire du pognon. Attends.
Oui, je pense que ça peut éventuellement être ça. C'est une option en effet. Et voilà. Donc, nous, tous, moi personnellement, hein, vraiment à titre personnel, tout ce que j'aurais envie de dire au CSPLA, c'est que ça fait partie de ce qu'on appelle dans le droit d'auteur, de la gestion individuelle. C'est-à-dire que dans le droit d'auteur, vous avez la possibilité soit de faire de la gestion collective, vous inscrivez à la SACEM, vous laissez la SACEM gérer tout ça, soit vous restez en gestion individuelle. Et à partir du moment où ça existe dans le droit, ben voilà, point barre, il n'y a rien d'autre à dire, quoi. Le reste, je vois pas pourquoi ils s'en mêlent, quoi. Qu'est-ce qu'ils vont aller légiférer ou étudier, modèle économique ou quoi? Ok, ce modèle économique, il est grosso modo le même pour tout le monde. Avec, je pense, un désavantage pour les gens qui utilisent les licences libres, puisque de toute façon, eux n'auront jamais accès à des fonds qui sont éventuellement accessibles, des fonds de soutien que souvent la SACEM met en avant en faisant des festivals de ceci, des tremplins de cela. Voilà. Donc, ça, cet argent-là, les gens qui font de la musique libre, qui participent au financement de ça, parce qu'il y a de l'argent qui va être récolté par la SACEM, qui concerne la diffusion d'œuvres libres, mais comme il n'est pas réclamé, il tombe dans un pot commun. Donc oui, à ce titre-là, oui, là, il faudrait peut-être penser à leur reverser sous une forme, par exemple, de fondation à la musique libre, ou je ne sais quoi, ça, c'est à réfléchir, mais voilà, au moins noter qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre du... pas de la spoliation, on va pas exagérer, mais on va dire que les gens qui font de la musique libre n'ont pas accès à certains financements auxquels ils devraient avoir droit. Quoi.
Et est-ce qu'on pourrait être un petit peu optimiste et se dire qu'au final, cette étude est menée pour essayer justement de savoir comment on peut aider les créateurs, comment, quels sont les usages des créateurs qui publient sur licence libre et comment on
Je suis complètement partiale sur le sujet, je ne vais pas nier. Mais pour moi, quand je lis ce que j'ai lu par rapport aux intentions qui sont derrière les mots qui sont utilisés, le vocabulaire, économie, etc., sur des questions qui, en fait, pour moi, ne sont pas liées à l'économie. Je crains un peu qu'on dérive sur autre chose, quoi. Mais bon, j'espère. Hein. J'espère qu'ils auront accès à des données, à des analyses, à des expériences d'artistes, de labels, etc., qui leur permettront d'avoir un angle de vue qui soit celui de la communauté et pas celui d'une grosse entité comme la SACEM ou d'autres SPRD ou des majors ou quoi au caisse, quoi, qui n'ont rien à voir là-dedans.
À voir.
Donc, à voir. Donc, j'ai toujours pas retrouvé la petite phrase qui tuait tout le reste. Mais si vous avez des questions.
Tu disais tout à l'heure que tu as le système de gestion collective ou, comment tu dis, personnel ou
individuel.
Gestion individuelle, oui.
Et la licence globale, ça rentrerait dans quel... ça serait compatible avec une... ça serait une collective ou une individuelle?
Bah, la licence globale, je ne peux pas me prononcer sur le sujet parce qu'il n'y a pas d'entité à l'heure actuelle qui soit capable de reverser à des gens qui font de la... Comme je disais, qui font de la musique libre, si on parle que de musique. Et il n'y a pas une entité qui va gérer de manière globale ces sommes-là. Ça serait possible si on avait accès à une gestion collective, mais réellement mutualiste, comme ça se passe actuellement en Allemagne. Et le problème, c'est que qui dit gestion collective dit règles précises à respecter pour être baptisée gestion collective. Et donc cette initiative allemande est très intéressante parce que justement, elle propose une gestion collective, mais qui fonctionne vraiment de façon différente et pas du tout de manière... on va dire pas comme le fait la SACEM ou la GEMA qui est l'équivalent allemand et qui est extrêmement qui fonctionne on va dire pour alimenter ceux qui produisent le plus quoi. Tout simplement. Enfin, je suis obligée de schématiser, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais voilà. Quoi.
Du modèle capitalisme jusqu'au bout des doigts. Quoi.
Mais c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a du mal à comprendre souvent de vue de l'extérieur, c'est que ce sont des sociétés de gestion des droits. L'État n'a rien à voir là-dedans. Ce sont des organismes paritaires, entre guillemets, des organismes avec différents acteurs à l'intérieur qui décident de gérer les choses de telle et telle manière. Donc les règles de répartition sont écrites, sont faites par les gens qui font la SACEM. Et les gens qui font la SACEM, dans le mode actuel de vote et d'élection de la SACEM, c'est ceux qui touchent le plus. C'est comme ça que fonctionne la SACEM. Donc voilà, quoi. On ne peut pas dire que ce soit extrêmement équitable pour les tout petits, les lambda, les gens qui disent bon, ben, les licences libres, ça les mène à rester amateurs. Mais si tu es tout petit et que tu t'es inscrit à la SACEM, tu vas payer un droit d'entrée et tu ne toucheras jamais rien, quoi. Donc, au final, je ne vois pas en quoi la gestion collective est quelque chose qui t'amène plus de choses que le fait de rester en gestion individuelle. D'ailleurs, c'est l'expérience de manière parallèle qu'on peut faire avec ce qui s'est passé avec Nina Paley, qui, elle, a choisi de ne pas passer par les grands distributeurs de films pour Sita Sings the Blues, parce que, justement, elle aurait perdu toute possibilité... déjà de choisir dans quel pays elle pouvait diffuser ou quoi, et surtout parce qu'elle ne touchait quasiment rien, quoi. Donc elle a touché plus d'argent en le gérant elle-même qu'en le faisant gérer par d'autres sociétés, enfin, par des intermédiaires. Donc voilà.
À suivre alors. De toute façon, tu nous tiendras au courant dans les mois qui viennent.
Oui, alors j'en appelle s'il y a des auditeurs qui sont des musiciens libres, auteurs, compositeurs, etc., je leur propose de faire une petite bafouille sur le sujet, sur leur cas particulier, comment ils voient les choses, comment ils gèrent ça au quotidien, et de les proposer à l'association Musique Libre via le forum de Dogmazic, où il y a un post sur le sujet.
Alors... Une petite question sur IRC de la part d'Avel Dirol. Il demande s'il suffit que les petits choisissent autre chose que la SACEM. Donc, enfin oui, je le dis peut-être mal, mais... Donc il suffit que les petits choisissent autre chose que la SACEM, non ?
Il suffit, ça serait... Il suffirait, ouais.
Mais il n'y a pas autre chose.
Ben, et puis... L'autre chose, c'est en tout cas nous en tant que Français, c'est la gestion individuelle. Voilà. Mais je pense qu'il y a peut-être la possibilité, je ne me suis pas penchée sur la question, enfin, je n'ai pas approfondi vraiment le sujet du C3S en Allemagne, mais je pense que c'est une société où les étrangers peuvent s'inscrire. Parce que théoriquement, les sociétés de perception et de redistribution des droits comme la SACEM, normalement, n'ont pas de monopole, en théorie. Donc, en théorie, on doit pouvoir s'inscrire dans une autre. D'accord. Mais c'est juste une théorie. Parce que comme ils représentent chacun, chaque société représente le répertoire des autres sur son territoire, au final, voilà, c'est vraiment qu'une théorie.
Et moi, j'ai une autre question, mais...
Non.
Du coup, il y a quand même un intérêt pour les artistes de se regrouper et du coup d'être dans un collectif et d'essayer de faire valoir ses droits collectivement, des choses comme ça. Donc souvent, on nous dit la SACEM, c'est intéressant parce que voilà, il y a au moins ce côté tous ensemble.
Ouais. Alors oui et non, parce que quand on rentre à la SACEM, on va être obligé de suivre les décisions de la SACEM. C'est-à-dire que c'est la SACEM qui va décider de faire ci, ça et ça, et donc. En fait, quand on rentre à la SACEM, on est sous tutelle. On ne décide plus rien pour ces œuvres. C'est la SACEM qui décide ça. Pendant 10 ans, le droit patrimonial est intégralement géré par la SACEM. On n'a pas son mot à dire. C'est la SACEM qui décide de tout. Donc, c'est vrai que c'est facile. Et c'est pour ça que les gens y vont. Parce que c'est facile, tu t'occupes de rien. C'est la SACEM qui s'occupe de tout. Voilà, c'est une tutelle. Rien de plus, rien de moins. Mais quant à défendre tes droits, défendre quoi ? Qu'est-ce que les gens veulent qu'on défende pour eux ? C'est ça la question. Donc, si c'est des petits, si le mode de gestion de la SACEM leur plaît, qu'ils y aillent. Mais en tout cas, c'est pas eux qui vont modifier sa manière de le gérer. Ça, il faut bien qu'ils le sachent, quoi.
Alors, on va arrêter là parce que du coup, on a un horaire à respecter quand même.
Pardon.
Non, mais c'est très bien.
Je sais que le sujet.
C'est chaque fois le sujet sur.
Blablabla.
Tu t'emportes un petit peu beaucoup.
Mais c'est très. C'est pas évident d'expliquer les sonorités de ce sacré merdier, quand même.
En tout cas, je vous propose d'écouter non pas de la musique libre, mais de la musique plutôt ouverte. Dr. Frankenstein sur Radio Girol, c'est du rap. Et alors, la licence, parce qu'on du coup, on va parler de licence. Laissez-moi vous trouver ça. C'est du Creative Commons by NCND 2.0. Donc, Dr. Frankenstein, Emergency Exit sur Radio Girol.
pensé à télécharger l'application Radio Girol sur son téléphone mobile?
Ça s'appelle Radio Girol sur le Play Store.
Et nous voilà de retour sur les webs ondes du collectif Girol en direct du centre d'animation Saint-Pierre et en différé si vous nous écoutez à partir de tout à l'heure directement sur notre site avec les beaux flux RSS qui vous permettent d'avoir un super podcast. Ça c'était pour la pub. Sachez aussi que vous pouvez directement interagir avec nous si vous venez sur l'IRC, irc.freenode.net et le salon Dies Girol. Non, ce n'est pas un mot-clé. Ensuite, oui, c'était Ripou, hein. Désolé. Nous passons du coup à Purisme. Purisme est une initiative qui vise à vendre des ordinateurs un peu plus libres que ceux qu'ils sont à la base, notamment en enlevant un truc qui est très très problématique, qui est l'Intel Management Engine. Et c'est Will Fire qui va se charger de nous causer de tout ça. Tu vois, je m'en suis rappelé.
Ouais. Non, mais c'est bien, toi. Bon. Alors grosso modo, Purisme, c'est une entreprise qui construit des machines. Et ils ont pour philosophie d'essayer de faire un produit où on va essayer d'enlever tous les... Alors leur but, c'est vraiment d'arriver à essayer d'enlever 100% du code propriétaire qui permet de faire tourner la machine. Donc que ce soit les firmware de disque ou l'Intel Management Engine, etc. etc. Évidemment proposer un ensemble logiciel dessus entièrement libre. Donc ils ont créé leur propre distribution basée sur Debian, où ils ont essayé de construire un environnement où ils ont enlevé le plus possible de logiciels propriétaires.
De blob et de firmware.
Oui, entre autres. Ouais. Et puis même pour toute la suite, pour les pilotes, pour les applications usuelles, etc. Donc leur but, ça va être d'arriver à avoir les certifications que propose la Free Software Foundation. Donc ils ont, je ne sais pas s'ils l'ont obtenu pour leur distribution. Il me semble qu'ils ont soumis la demande de certification. Et actuellement, ils travaillent à la libération du matériel et des firmwares sur les machines pour pouvoir obtenir la certification Respect Your Freedom, donc qui est une certification matérielle. Ce qui serait quand même très, très intéressant dans la mesure où actuellement, si on veut un ordinateur portable qui a cette certification, le seul choix qu'on a, ma connaissance, ce sont des vieux Lenovo d'occasion, qui n'avaient pas encore justement ces couches, notamment le Intel ME dont on parlait, et sur lequel la société qui les vend a juste mis Core Boot, a juste installé des logiciels libres dessus. Alors, donc on n'a pas de choix actuellement si on veut du matériel récent qui ait cette certification, donc qui soit vraiment entièrement libre.
Alors on va préciser, Core Boot, c'est un remplaçant du BIOS, mais entièrement libre, parce que le BIOS ou l'EFI sur les machines récentes n'est pas du tout libre. Et du coup, ça pose certains problèmes à des libristes. Alors l'autre solution sinon, c'est d'acheter des ordinateurs à base de MIPS, notamment Richard Stallman en avait un, des trucs chinois, une marque assez obscure qui vend des ordinateurs entièrement libres, mais avec une puissance de calcul qui est extrêmement minime et qui ne permet pas d'avoir un environnement de bureau moderne, etc., tel que l'on entend à l'heure actuelle.
Voilà. Et après, donc, dans les autres éléments qui constituent la philosophie de l'entreprise, donc au-delà du respect de la liberté de l'utilisateur sur la machine, il y a aussi le respect de l'utilisateur lui-même en évitant le plus possible d'obsolescence programmée dans la machine. Donc l'idée, c'est quand même d'arriver à construire une machine dont le design est robuste. La machine en elle-même est faite de telle manière à ce que l'ouvrir et aller modifier ou faire de la maintenance, réparer, changer une pièce, ça soit facile. Ils vendent d'ailleurs les pièces, il y a une partie des pièces qui constituent la machine qui sont vendues, qu'on peut acheter à l'unité, donc pour réparer sa machine. Et après, le troisième point, ça va être au niveau de la sécurité. C'est-à-dire qu'ils vont proposer une distribution qui est déjà de base, ils essayent de la rendre sûre. Ils proposent quand on achète la machine, on peut acheter soit leur distribution, enfin, on peut avoir soit avec leur distribution de base préinstallée, soit une distribution orientée sécurité qui s'appelle CubesOS, qui est entièrement compatible avec cette machine. Et c'est les concepteurs ont une idée assez intéressante. ils ont rajouté des switches sur la machine, donc un bouton qui permet de court-circuiter physiquement sur le circuit de la machine, de couper micro-caméra et tout ce qui va être connexion sans fil, donc Bluetooth, Wi-Fi. Donc sachant que c'est relativement connu maintenant que les webcams peuvent être hackées et notamment filmées sans afficher la petite loupiote qui indique si c'est en train de filmer ou pas, c'est connu. Donc voilà, ça c'est une solution assez radicale. Ça va être difficile de hacker si la caméra n'est même pas branchée.
Exactement. Alors revenons un peu sur justement l'Intel Management Engine. Alors qu'est-ce que c'est exactement ? Parce qu'effectivement, si on en entend pas mal parler dans les mondes libristes, ça commence un petit peu, on entend des voix commencer à s'élever, à grogner contre ça. Qu'est-ce que l'Intel Management Engine ?
Alors basiquement, c'est une série de composants qui sont sur toutes les cartes mères qui sont prévues pour accueillir un processeur Intel récent. Donc par récent, j'entends les peut-être 5-6 dernières années. Enfin, ça fait c'est pas... Si vous avez un PC qui date un peu, il l'a peut-être. C'est quand même, il est assez répandu. Et basiquement, c'est un système qui va, ça va faire tourner un deuxième système d'exploitation sur votre machine, qui a plus de droits que le système sur lequel vous tournez vous. Enfin, limite, on peut considérer que le système sur lequel vous tournez, lui, il est invité, il est là par la bonne grâce du premier. Et donc, cette Intel Management Engine va avoir accès à absolument toute votre machine. Que ce soit le contenu de la mémoire vive, le contenu des disques durs, elle a accès aux connexions réseau, etc. Donc, et on ne sait pas du tout ce qui tourne dessus, c'est complètement opaque. Donc en sécurité informatique, on a l'habitude d'être parano, à bonne raison en général. Et bien, quand on voit ça, la raison pour laquelle les gens se plaignent de ce truc, c'est simplement parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dessus et que basiquement, ça pourrait être une backdoor en puissance. Enfin, si vous avez ce truc-là, si ça se trouve, c'est super simple de rentrer dans votre machine, de faire n'importe quoi sur votre machine, quelles que soient les sécurités que vous auriez mis. Quoi.
Et comment on peut savoir si on l'a ou pas ? Il y a quelque part, il y a un endroit où c'est dit tel processeur, telle carte mère.
Je sais pas. À mon avis, si sur une machine relativement récente, ça y est.
Ouais.
Oui, sans se poser de questions, en fait. Mais si vous avez de l'Intel sur une machine relativement récente, ça y sera. Après, il y a peut-être, j'ai pas creusé, mais il y a peut-être moyen. Je pense notamment le site Arc d'Intel. Donc, si vous tapez sur votre moteur de recherche la référence d'un processeur, à mon avis, vous tomberez sur le site arcintel.com, un truc comme ça.
Oui.
Et dans les références, ce sera marqué, je pense.
D'accord.
Il faut chercher Intel ME.
C'est ça. Alors, sachant qu'effectivement, comme le disait, en fait, l'Intel ME n'est pas le deuxième système d'exploitation, c'est bien le premier, c'est lui qui donne accès à tout le matériel, en fait, de la machine connectée. Alors, bien entendu, Intel dit oui, c'est sécurisé parce que c'est chiffré, sachant qu'on a encore des folles rumeurs qui alimentent, certains bistrots virtuels informatiques qui disent que ça y est, les clés de chiffre, de déchiffrement et chiffrement, de l'Intel ME qui est chiffré directement sur les puces qui le contiennent serait disponible sur le dark web. Donc ça veut dire que potentiellement, effectivement, même si c'est une rumeur ou un fantasme, c'est quelque chose que l'on peut imaginer un jour.
Puis même si c'est pas vrai, la possibilité existe. Et puis on sait tous les accords qu'ont la NSA avec les grandes entreprises et à quel point elles peuvent les forcer, même si elles ont pas envie légalement, elles peuvent forcer Intel à leur donner ces clés-là. Donc, il faut considérer que la NSA les a et que ce genre d'agences les ont.
Voilà. Ceci étant dit, l'autre grand fabricant de processeurs x86, AMD, n'est pas en reste puisqu'il existe des fonctions équivalentes à l'Intel Management Engine sur les puces. Voilà. Ce qui permet, en fait, du côté des constructeurs, de pouvoir régler des problèmes matériels d'un processeur parce que les processeurs x86 sont très complexes, de plus en plus complexes, et ce qui permet de pouvoir corriger des éventuels problèmes matériels par des ajouts logiciels, des mises à jour de cette Intel Management Engine. Donc,
alors, sachant qu'ils ont discuté dans l'article, donc le purisme, en fait, a réussi à libérer une énorme partie de ce Intel ME sur leur machine. Ils ont réussi à virer sur plus de 100 composants, peut-être 200 composants, il en reste plus que 2 actuellement sur leur machine. Sachant que c'est juste des composants qui sont là pour permettre d'allumer la machine et qui prévoient aussi de les recoder pour que ce soit libre. Et donc cette histoire de, ça s'appelle du microcode en fait, c'est mise à jour de processeur. Donc ils en parlaient et ils étaient, disons que la communauté qui gravite autour de Purism et même en général sur cette question est assez partagée entre l'idée de toute façon, il y a une version zéro du microcode qui est gravé dans le CPU lui-même, donc c'est pas quelque chose qu'on peut enlever complètement. De toute façon, c'est là physiquement dans le CPU, et autant profiter des mises à jour pour régler le problème. Et d'autres qui se disent ah mais on s'est fait faire confiance à du code étranger, on sait pas trop, sachant que sur les tests qu'ils ont fait pour l'instant, il y a des machines où sans ces mises à jour ça marche à peu près. Ils avaient réussi à pas avoir trop de problèmes. D'autres machines avaient rencontré quand même quelques instabilités qui disparaissaient en remettant ces mises à jour. Donc la question est encore est pas tellement tranchée pour l'instant du côté de Purism, et ils prévoient de laisser le choix de le mettre ou de pas le mettre à l'utilisateur, laisser ce choix à l'utilisateur final.
Alors Purism quand même est tombé sur des trucs pas mal, notamment on apprend que sur leur article, vous tapez pur.is, mais vous avez le blog, alors c'est en anglais, donc voilà, il faut pouvoir lire correctement l'anglais et qui plus est technique. On apprend notamment que l'Intel ME tout seul fait 120 mégaoctets, ce qui est beaucoup plus que le noyau Linux tout seul, qui à peu près je crois une trentaine de mégas une fois qu'il est compilé avec tous les modules, il me semble. Dont notamment ils ont trouvé une machine virtuelle Java.
C'est ça, c'est qu'il y a en fait il y a bien plus qu'un noyau dans ce Intel ME. Ils ont effectivement il y a toute une stack de composants, le kernel, une stack réseau, etc. Et ils ont trouvé effectivement une JVM. Il y a du Java qui tourne dans ce truc obscur.
Sachant que Java est, alors à mon avis, hein, c'est peut-être erroné, mais a le même statut un peu que Flash, c'est que c'est quand même relativement buggé. Enfin, surtout l'implémentation Oracle, Sun Oracle est buggé, et surtout il y a pas mal d'alertes de sécurité sur Java.
Ouais, je sais pas trop quelles sont les implications, possibles implications qu'il y aurait à ce niveau-là. Parce que j'imagine quand même qu'ils doivent, que ça doit être assez particulier d'arriver à accéder à cet OS-là plutôt que l'OS de base qui tourne sur la machine. Donc je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais si ça se trouve, oui. En plus, de toute façon, rajouter un composant, c'est forcément rajouter un, même s'il est solide, c'est quand même forcément rajouter des problèmes de sécurité.
C'est tout simplement une plus large surface d'attaque.
C'est ça,
possible.
C'est une surface d'attaque plus large, évidemment.
Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Nous, on se tiendra au courant. Voilà, c'est
mais
vous
oui,
tapez
oui.
https://puri.sm. Ça a l'air relativement intéressant et ce sont des choses à voir puisqu'on manque cruellement effectivement de matériel libre qui respectent l'utilisateur.
Oui, et puis honnêtement, les spécifications de ce que j'en ai vu des machines sont très propres.
Hein. Et les prix ?
Alors, c'est un peu, justement, ouais, c'est un peu cher.
Le modèle de base, en fait, un 13 pouces avec un Core i5, 8 Go de RAM et un SSD de 250 Go, une machine légère à peu près du format d'un MacBook Air, est autour de 1 500 $.
Ah, ok.
C'est que, ouais, comme, disons,
par
comme
contre,
en fait, comme c'est une petite boîte, ils n'ont pas, l'économie d'échelle, ils n'arrivent pas forcément à baisser les prix, mais ils travaillent dessus de ce
voilà. Par contre, on a un matériel qui est entièrement réparable, avec des composants qui se changent facilement, ce qui n'est pas voilà, un MacBook. Une fois que, par exemple, le MacBook Air, une fois qu'il est mort, comme tout est soudé à la carte mère, on peut prendre la machine, la renvoyer chez Apple pour la recycler, et ensuite, c'est fini.
Et c'est la seule machine à ma connaissance qui est ce système de kill switch
oui.
Pour pouvoir couper matériellement la caméra, le micro, Wi-Fi et le tout.
Voilà, alors on est un peu pris par l'horaire, donc on va faire une dernière petite pause musicale. Je vous propose un peu de hip-hop, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai annoncé un morceau de hip-hop, ce ne l'était pas, mais bon, je suis...
Bah, hip-hop ou rap
Je sais pas, c'est
Fusion, il y a écrit sur le site, Fusion.
C'est
rap.
What Fat Man, c'est Déprécise sur Radio Girol. We'll be right back.
nation, comme le risque de cavalerie de sodomisation. Massif des classes fragiles doit être immédiat et définitif. Massif des classes fragiles doit être immédiat et définitif. Les conseils d'administration des entreprises ne sont pas élus par le peuple, alors que leur décision est plus importante que celle des élus du peuple. La souveraineté n'appartient pas à l'ensemble des citoyens, comme définissent nos textes à coup de suffrage de politiciens, mais aux détenteurs de capitaux depuis plusieurs générations. Les maîtres du monde, peut-être je ne connais pas la définition. Je sais simplement que l'on charge l'homme de dette pour une dépense instrumentale, ce qui ne lie à une dépendance salariale. Je vois juste que nos enfants sont pourris par le Père Noël, les adultes par le matériel accablé par une propagande télévisuelle. J'observe seulement que la peur et le high-tech sont utilisés pour que les mouvements soient contrôlés. J'observe seulement.
Voilà, sur Radio Girol, et on n'est plus qu'avec Martin. Alors bonsoir Martin, tu vas pouvoir prendre un micro. Il faudrait plutôt que je te l'allume en fait.
Ouais, ça serait mieux. Ah non, c'est bon. Bonsoir.
Voilà, tu nous as rejoint pour la dernière partie de cette émission de radio, et on va parler de jeux vidéo. Voilà, comme d'hab, hein, on finit toujours par une petite note un peu joyeuse. Alors bien entendu, souvent les jeux que l'on expose ne sont pas libres, mais ils sont au moins compatibles avec Linux. À quand des jeux compatibles FreeBSD? Je vous le demande. Quoique, ça ne serait pas si impossible que ça, puisque la merde de Microsoft mise à part, les grosses consoles maintenant du marché tournent sous FreeBSD, en fait, puisque des captures d'écran ont fuité sur de la nouvelle console de Nintendo et de la Switch. Et savez-vous quoi? Eh ben, le noyau, c'est du FreeBSD. Exactement comme la PlayStation 4 ou la PlayStation Vita. Comme quoi, quand les fabricants de puces graphiques ont envie, ils peuvent vraiment faire des pilotes qui fonctionnent sur des systèmes open source. Ceci étant dit, on n'est pas là pour parler de console Nintendo, mais bien de jeux sous Linux. Et aujourd'hui, je vous propose de vous parler, d'un jeu que j'ai testé et acheté. Je vous en avais parlé déjà la semaine dernière, mais je vous avais dit que le jeu m'intéressait particulièrement. C'est Alois Awakening. C'est sorti il y a un mois maintenant sous Linux. Il était disponible day one. C'est un petit jeu de plateforme avec des écrans plateaux, c'est-à-dire un peu à la manière de Bubble ou du premier Zelda sur NES. Chaque écran est une salle et vous passez de l'une à l'autre, vers le haut, vers le bas. C'est un jeu de type plateforme réflexion en vue du 2D sur le côté. Et c'est une ode à la Nintendo NES jusque dans la musique très chiptune avec des sons très caractéristiques de ce qui se faisait sur NES. D'ailleurs, le musicien de la bande, Robert Kreese, va sortir la bande originale sous forme de cartouche NES que l'on pourra insérer dans la NES pour l'écouter. Oui, ça fait beaucoup rire Will Fire, mais c'est ça, c'est exactement ça.
C'est génial comme idée. C'est comme une personne qui faisait de la musique chiptune et qui avait sorti un vinyle avec une pochette en forme de disquette. J'adore ce genre de truc, c'est idiot,
voilà.
C'est génial.
Et alors, j'ai vu ça passer sur Twitter, ça m'a fait aussi beaucoup rire. Alors, de quoi est-il question dans Alois Awakening? Vous êtes Zoé, une petite magicienne, on pourrait croire, avec un petit capuchon de magicien, et vous vous réveillez dans le monde d'Alois qui a été ravagé par un méchant vilain pas beau et ses quatre sbires. Et vous devez, dans tout le monde d'Alois, essayer d'éliminer ces quatre sbires pour rétablir la paix au sein du monde d'Alois qui était jadis prospère et en paix. Vous naviguez à travers toute une série de mondes en vue de 2D, et vous utilisez votre baguette magique afin de annihiler certains ennemis, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout pouvoir créer des blocs, créer des bulles, ou créer tout un tas de choses qui vont vous permettre d'avancer dans ce monde plutôt labyrinthique. Les musiques sont, comme je l'ai dit, d'inspiration NES, tout comme le graphisme, avec une palette de couleurs très très limitée, mais des graphismes quand même un peu plus fins de ce qui se faisait à l'époque sur Nintendo NES. Le jeu est extrêmement plaisant, les musiques sont extrêmement entraînantes, et je vous avouerai que c'est un petit jeu très très sympa. Cependant, je peux noter quand même que, même si j'accroche beaucoup et que le jeu est relativement mignon et sympa, au bout de 2 heures de jeu, je me lasse facilement et je passe à autre chose, ce qui ne m'empêche pas le lendemain de recommencer pour 2 petites heures, parce que même si je me lasse vite quand je joue, je me lasse aussi très vite quand je n'y joue pas. Voilà, pour l'instant je n'ai pas encore fini le jeu, mais j'y vais progressivement. Ceci étant dit, entre temps la chair est faible et j'ai je dirais cédé aux sirènes de Hitman, qui est aussi sorti le mois dernier, et même si je me dis ah, le mode connecté c'est pas bien, j'ai fini par l'acheter et grand bien en a pris, puisque c'est aussi un très très bon jeu. Et entre temps, je suis passé sur un jeu sorti récemment sur PlayStation 4, mais je compte bien me remettre intensément à Alloy's Awakening, parce que rien qu'en regardant les screenshots, en vous parlant à la radio, bah, il me manque un peu, ces musiques aussi me manquent beaucoup. Donc je pense que ce soir, en rentrant à la maison, après avoir couché les enfants, je m'y remettrai. En clair, un excellent jeu pour ceux, tous les amoureux de la NES, que vous ayez connu la NES dans les années 80 ou pas, du coup. Je vous conseille chaudement ce jeu qui n'est pas très très cher sur Steam, me semble-t-il. Voilà, il est à moins de 10 euros. Enfin, 9,99 €, on y est presque. Donc voilà.
J'ai eu un peu je connais pas le jeu, mais j'ai eu un peu les mêmes sensations sur Shovel Knight, qui est un peu le même délire sur une génération un peu plus récente que la NES, mais ouais, c'est vrai que ce genre de jeu hommage, ils sont vraiment mémorables en général.
Exactement. Et c'est le même sentiment un peu partagé de j'y joue 2 heures et bon, ça me saoule, hein, je passe à autre chose. Et puis le lendemain, on se dit ah mince, quand même, je vais reprendre parce que là, c'était vraiment super bien.
Alors, en général, tu sens qu'ils sont faits avec beaucoup d'amour, ces jeux-là.
Exactement. Et c'est le cas pour celui-ci.
Ah, puis il est vraiment très joli, Alloy's.
Oui, mais il faut. Alors là, on ne diffusera pas pour des questions évidentes de choix les musiques, mais les musiques sont vraiment super sympathiques au niveau audio. C'est quand même grandiose et je vous conseille du coup de vous trouver la BO qui est disponible sur YouTube pour l'écouter et sur Bandcamp, me semble-t-il. Voilà. Autre petite actualité jeu vidéo, la sortie de Dirt Rally. Enfin, Linux a un vrai jeu de rallye. C'est plutôt de la simulation. On n'est pas là dans le jeu d'arcade de type Rally Sports Challenge, les excellents Rally Sports Challenge qui étaient sortis sur la Xbox, première du nom. Mais on est voilà sur une vraie simulation qui a l'air relativement jolie, avec des gestions de collision, dégâts qui est plutôt sympa. Le seul petit problème, c'est que habituellement, quand un jeu sort sous Linux, il est en promotion. Là, il ne l'était pas. Il était toujours disponible à 50 balles. Je me suis dit que pour un jeu que j'allais jouer 2-3 fois comme ça pour m'éclater un peu, c'était un petit peu cher. Donc moi, je vais attendre qu'il soit un petit peu en promotion. Le portage a été fait par Feral Interactive. Encore une fois, ils sont, il faut dire, très prolifiques, ces gens-là. Il est plutôt bon, même si, bien évidemment, les puristes vous diront « Ouais, mais sous Windows, ça marche mieux, il y a plus de frames par seconde. » Bon, moi, je suis de ceux qui pensent, on s'en fiche un peu tant que le jeu est jouable et qu'il est à peu près fluide. Ma foi, et qu'on passe un bon moment, tout va bien. Je vous dirai une fois que je l'aurai testé, mais c'est pas pour de suite. Voilà. C'est tout, vous avez pas d'autres trucs à dire pour le jeu vidéo ?
Non, désolé, moi, je suis toujours sur Battle for West End, donc...
Bon, mais en attendant, il va être le temps de se quitter. Hein. Je vous propose une dernière petite musique, c'est la chanson française, c'est Sac à boulon, 5 Georges W de la jungle. W, je sais pas, c'est...
W.
Ouais, W de la jungle. Oui, on s'en doutait un petit peu. Nous, en tout cas, on se retrouve bientôt au mois d'avril. Du coup, le 11 avril, pour être exact, pour une autre émission Radio Girol. En attendant, je vous laisse avec Sac à boulon. Bonne soirée à tous et à dans un mois sur Radio Girol.
On pourrait croire à vous entendre parler que la guerre est sainte et qu'elle est utile, que c'est le peuple qui l'a demandé. Mais on n'est pas tout à fait débile. Oui monsieur, j'ai passé l'âge de me faire prendre pour un con. Je ne crois plus à vos lois du partage. Je sais que si vous y allez, c'est forcément qu'il y a du pognon. Car voyez-vous, dans l'histoire, ce qui me dérange, même si la décision était difficile à prendre, ce n'est pas vous qu'on égorge. Car voyez-vous, dans l'histoire, ce qui me dérange, même si la décision était difficile à prendre, ce n'est pas vous, non.
Il est de notre devoir de libérer le peuple. La cible n'était pas les populations civiles. Nous avons atteint nos objectifs. Tous les puits de pétrole sont éteints.
Ça y est, on va pouvoir s'y mettre. Pomper ce jus noir, faire avancer nos voiturettes. Faire du plastique pour polluer la planète. Gagner des dollars pour faire remonter nos quêtes. Consommer sans limite, sans loi évidemment. Se payer drogue putée, tout ça en même temps. Avoir le droit d'exploiter des tas de gens. Et puis 5 ans après être le roi du bâtiment. Car voyez-vous, dans l'histoire, ce qui me dérange, même si la décision était difficile à prendre, ce n'est pas vous qu'on égorge. Car voyez-vous, dans l'histoire, ce qui me dérange, même si la décision était difficile à prendre, ce n'est pas vous, non. Parallèlement à tout ça, ils s'amusent à bidouiller les gènes de la nature. J'aime les OGM, mais-en donc dans ma confiture. Plus besoin d'engrais, plus besoin de pesticides, même plus les oiseaux viennent manger mes légumes. Le progrès au service de l'homme, c'est magnifique. Moi j'achète mes graines en Amérique, en voyez-vous, dans l'histoire, ce qui me dérange, même si la décision était difficile à prendre, ce n'est pas vous qu'on égorge. Car voyez-vous, dans l'histoire, ce qui me dérange, même si la décision était difficile à prendre, ce n'est pas vous, non.
On reprend un petit peu l'antenne, juste pour faire une petite dédicace à Olinux, le créateur de Librasic, la distribution Linux qui monitorise le studio, le PC d'émission Girol avec IDJC entre autres. Voilà, c'était tout. Au mois prochain.